merci d'être bien à l'heure. Nous allons donc reprendre et écouter l'exposé d'Edwin Tisbart. Je vous laisse la parole.
Je voulais remercier vivement les organisateurs, Jacqueline et tous les autres, de m'avoir donné l'occasion de remettre sur le métier les questions qui...
Est-ce que
celle de
vous, mais elle
c'est pas écrit dessus.
Il faut couper.
Voilà, ça va mieux.
Oui.
Qui me donne l'occasion de remettre sur le métier des sujets qui m'occupent, qui me passionnent, de les remettre à jour et puis surtout d'échanger, de les confronter à d'autres manières de penser ou de me dire à ce à quoi je n'ai pas pensé moi-même. Donc je remercie les organisateurs pour cela. Alors, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est aussi vaste et complexe que passionnant et fondamental. Donc, je vous avertis d'emblée que je vais sans aucun doute décevoir vos attentes, poser plus de questions que d'apporter de réponses, effleurer certains sujets sans pouvoir les approfondir comme je le souhaiterais, bref, ouvrir un chantier de réflexion et le laisser béant au terme de cette matinée. À charge pour chacun de poursuivre un terrassement ou de laisser les choses en l'état. Les mots. Alors, les mots et leur usage ne nous laissent pas tranquilles. Nous travaillons avec eux. D'ailleurs, la psychanalyse n'est-elle pas une cure de parole? L'emprise des mots sur le psychique, leur pouvoir libérateur ou mortifère, la tragique finitude du langage humain font notre lot quotidien d'analyste ou de psychothérapeute. Et la portée des mots pour la vie d'esprit, pour la pensée, est indissociablement individuelle et collective. Alors, deux questions d'abord. La première, c'est comment l'activité inconsciente trouve-t-elle des voies de passage par la pensée verbale? Et la deuxième, de quelle façon, au pluriel, le discours collectif, le discours du collectif, prend-il possession des moi individuels? À ces deux questions s'en ajoute une, préliminaire aux deux autres. Pourquoi la pensée humaine, même si elle est source de plaisir, voire de jouissance, est-elle rigoureusement indissociable d'une inaltérable et profonde mélancolie? D'un fond obscur propre à l'humain. J'y reviendrai plus loin d'un point de vue psychanalytique. Mais pour éclairer tant soit peu ce fond obscur, je vais faire appel à un écrivain, essayiste, philosophe qui s'appelle George Steiner, qui déploie une réflexion sur l'acte de penser. Cet essayiste contemporain tente d'approcher cette énigme dans un livre qui s'intitule « 10 raisons » entre parenthèses possible, à la tristesse de penser. C'est un texte d'une grande fécondité et d'une grande finesse que je vais résumer très très brièvement en énonçant les 10 raisons qui nous incitent à une certaine modestie, puis qui tracent les limites aussi à notre sentiment de toute puissance. Elles font aussi écho à ce que je crois nous avons tous découvert, parfois douloureusement, dans notre propre analyse. Alors, la première de ces raisons, c'est que l'infini de la pensée est un marqueur crucial, peut-être le marqueur crucial de l'éminence humaine, mais il n'existe aucune connaissance scientifique ou philosophique sans l'expérience du doute ou de la frustration. La deuxième, c'est que dominer la pensée par le langage oblige à une grande concentration. C'est une tâche difficile, intense, fatigante et douloureuse parfois. Nous en savons quelque chose. La troisième, c'est qu'aucun autre humain ne saurait penser mes pensées pour moi. C'est un fait ontologique. Les pensées sont notre seul bien assuré. Elles forment notre essence, notre fort intérieur. Mais ces pensées ont été pensées et seront pensées des millions et des millions de fois par d'autres. Elles sont d'une infinie banalité. Ce sont en définitive le plus souvent des produits usagés, défraîchis. Aussi, la vraie originalité de la pensée, celle d'une pensée pour la première fois, est-elle excessivement rare. D'ailleurs, Einstein disait, lui, qu'il n'avait eu que deux idées authentiques dans sa vie. Donc. Mais c'est aussi le plus commun, le plus usé et répétitif des actes. Donc, impossible de résoudre cette contradiction. Quatrièmement, même les vérités expérimentales démontrables et empiriquement applicables des sciences sont sous-tendues par des présupposés théoriques ou philosophiques, par des paradigmes fluctuants, toujours passibles de révision ou de mise au rebut. Penser, c'est ne pas être à la hauteur, c'est tomber à côté de la plaque. Quatrième raison de chagrin. En cinq, l'économie de la pensée est celle d'un gaspillage et d'un déficit presque monstrueux. Il n'est sans doute pas d'activité humaine plus dispendieuse. Alors il y a bien des efforts pour réglementer l'offre infiniment précieuse de la pensée, mais ils sont noyaux durs des systèmes totalitaires et des idéologies despotiques, qu'elles soient religieuses ou politiques. On pense à la police de la pensée, chère à Orwell. Alors, tandis que la multitude des êtres humains, même s'ils sont effleurés au passage par des pensées de premier ordre, cette multitude n'y prête aucune attention particulière et ne se donne pas la peine de les conduire au stade de la réalisation concrète. Cinquième raison de frustration. En six, dans le magma turbulent et polysémique des processus conscients et inconscients, la pensée et ses antécédents mystérieux, nocturnes aussi bien que diurnes, ne sont récupérables que de manière fragmentaire. Les effondrements mentaux, les fuites pathologiques dans les réalités, l'inertie du cerveau malade peuvent au fond être une tactique contre la déception de l'espoir frustré, une sixième source de tristesse. Ensuite, la pensée la plus inspirée est impuissante face à la mort, une impuissance qui a engendré nos scénarios métaphysiques et religieux. Donc la pensée voile autant et probablement bien plus qu'elle le révèle. En huit, un scandale. Nulle lumière finale, nulle empathie d'amour ne révèle le labyrinthe de l'intériorité d'autrui. Je dirais pour moi que tout patient, par exemple, est toujours plus que tout ce que nous pourrons jamais savoir sur lui. Donc, la pensée peut nous rendre étrangers l'un à l'autre. Plus faible peut-être que la haine, l'amour le plus intense est une négociation jamais concluante de deux solitudes, une huitième raison de chagrin. Ensuite, nous vivons tous nos vies dans une marée et un magma incessant d'actes de pensée. Mais seule une portion très restreinte de l'espèce donne la preuve qu'elle peut penser ou qu'elle sait penser. Peut-être l'humanité dans son ensemble n'a-t-elle pas encore émergé de la préhistoire de la pensée. Relativement rare est la capacité de penser des pensées qui vaillent la peine, sans parler d'être exprimées et conservées. En plus, la pensée authentique est gênée, voire détruite, par le refus de penser sous toutes ses formes, politiques, dogmatiques et idéologiques. Alors, quel mécanisme inconscient d'envie nourrit la révolte des masses et de nos jours, la brutalité, par exemple, de certains médias qui ont ridiculisé le mot même d'intellectuel ? Pour autant qu'on le sache, il n'est pas de clé pédagogique de la créativité. Et donc l'inadaptation de la grande pensée, de la créativité aux idéaux de la justice sociale est une neuvième source de mélancolie. Et enfin, la maîtrise de la pensée, de sa mystérieuse vitesse, élève l'homme au-dessus d'autres êtres vivants, mais elle le laisse en grande partie étranger à lui-même et à l'énormité du monde. Voilà les 10 raisons de nous affliger autour de la pensée. Et on va quand même continuer. Après avoir donc considéré cet acte de pensée comme imprégné de ce fond mélancolique propre à l'humain, nous allons nous tourner vers des sujets brûlants du monde actuel qui donnent lieu à controverses ou sont susceptibles de provoquer, sans que nous en prenions conscience, ce qu'un moraliste pourrait nommer une corruption de notre âme de thérapeute analytique. En suivant toujours le fil des mots de la pensée, j'en soulignerai deux. La première concerne la notion d'identité. Ce mot se trouve désormais chargé de signifier l'enjeu et l'objet de conflits de toutes sortes, et même de guerres. Les questions identitaires sont devenues depuis quelques dizaines d'années de plus en plus une matière hautement inflammable, au propre comme au figuré d'ailleurs. Pour la psychanalyse, l'identité n'est pas vraiment un concept de base. Plutôt que d'identité, nous utilisons le terme d'identification. Identification comme première forme de relation d'objet, notre corps. Nous parlons de quête identificatoire, de faille narcissique et puis de tas d'autres concepts. Mais sur la scène sociale et politique mondiale, le terme pose bel et bien une énigme lexicale. Pourquoi est-ce le mot identité qui s'est chargé de signifier l'enjeu et l'objet de conflits, de violences et de guerres? Alors, pour nous éclairer, le témoignage d'un économiste indien qui a étudié les questions de la pauvreté et des famines nous sera précieux. C'est Amartya Sen. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 1998, je crois. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Identité et violence », où il dénonce la position des intellectuels qui défendent ce qu'on appelle en français une politique communautariste. Il reproche à ces théoriciens d'enfermer les humains dans des identités exclusives. Et en particulier, il s'en prend vigoureusement à un programme britannique qui, en fait de diversité, préconise une juxtaposition de ce qu'il appelle des monoculturalismes qui consistent finalement à confiner chacun dans sa communauté d'origine. Sous couleur de célébrer la diversité et le respect des usages de chacun, on en viendrait en réalité à organiser officiellement la segmentation en communautés qui pourraient s'ignorer les unes les autres. Alors, ce qui m'a intéressé, là c'est une anecdote par laquelle il commence son livre, qui est une anecdote très éclairante, qui lui permet d'introduire le sujet, tout en soulignant à quel point notre usage du mot « identité » peut être une source de difficulté. Ces dernières difficultés renvoient, selon lui, à des difficultés proprement conceptuelles et lesquelles nous plongent en pleine philosophie. Voici l'anecdote. La scène se passe à l'aéroport d'Israël. À l'époque, Amartya Sen enseignait à Cambridge et y exerçait les fonctions de Master of Trinity College. Au retour d'un voyage en Angleterre, il se soumet au contrôle d'identité et présente sa fiche aux fonctionnaires de la police de frontières. Ce dernier voit que son adresse anglaise est ainsi libellée, Master's Lodge, Trinity College, Cambridge. Alors, surpris, ce fonctionnaire cherche à savoir à quel titre le voyageur indien qu'il a devant lui habite chez le maître de ce collège renommé. Il lui demande, est-ce que vous êtes un de ses proches amis? Demande-t-il à Sen. Visiblement, il ne lui vient pas à l'esprit que Trinity College pourrait avoir désigné comme son master un professeur de nationalité indienne. Et malicieusement, Sen fait remarquer qu'une telle question pourrait être entendue dans un sens profond et philosophique. Car depuis l'Antiquité, les philosophes se sont demandé si un individu pourrait être son propre ami, avoir avec lui-même une relation d'amitié. Et donc, ce petit incident montre que l'identité peut devenir une affaire très compliquée. Toutefois, il signale ces obscurités de l'identité à soi que pour préparer le terrain à d'autres difficultés. qui tiennent, dit-il, à une autre sorte d'identité. On parle aujourd'hui de partager une identité avec d'autres fidèles, une identité professionnelle avec des collègues, autant de catégories, de groupes, d'identités auxquelles un individu peut se rattacher d'une façon ou d'une autre. Il ajoute, et là il va décliner son identité, « Je suis tout à la fois un Asiatique, un citoyen indien de descendance bengali, un résident parfois américain ou parfois britannique, un économiste, un amateur de philosophie, un auteur, un ferme partisan de la laïcité et de la démocratie, un homme, un féministe, un hétérosexuel, un défenseur des droits des homosexuels, quelqu'un dont le style de vie n'est pas religieux, venant d'une tradition hindouiste, n'appartenant pas à la caste brahmane, qui ne croit pas à la vie après la mort, ni non plus, si on lui demande, à une vie avant la conception. L'intention est claire. S'il est vrai que chacun de nous peut ainsi énumérer au titre de son identité toutes sortes de solidarités ou d'intérêts, alors il va de soi que les politiques identitaires reposent sur un sophisme, puisqu'elles font comme si un individu ne pouvait trouver qu'un seul groupe auquel se rattacher. Si c'était le cas, on pourrait concevoir que la ligne de conduite de chacun soit dictée par ses identités sociales. Mais en fait, les identités sociales sont vigoureusement, foncièrement plurielles, et selon Sen, il suffit de souligner ce point pour ruiner l'idée même de tirer sa ligne politique d'une référence à son identité. Alors, pour l'analyse approfondie de ces questions captivantes, parce que je pourrais continuer longtemps sur ce sujet, je vais renvoyer au livre de Vincent Descombes, qui est un philosophe, Les embarras de l'identité. Très, très intéressant. Alors, j'ai tenté de montrer quelle déception génère la pensée et de quelles complications les mots qu'il a véhiculent sont source. Alors, dans notre pratique clinique, nous sommes régulièrement confrontés à des patients adultes qui se revendiquent d'une classe ou d'une communauté. Mettant en avant cette caractéristique, réelle ou supposée parfois, caractéristique comme seule et unique revendication d'identité. Ils demandent comme préalable la légitimation de cette définition d'eux-mêmes, mais aussi parfois, ils nous demandent si nous sommes spécialisés dans ce domaine. Ainsi, on peut citer en vrac les HP, au potentiel, les hyperkinétiques souffrant de troubles de l'attention, les abus sexuels, les bipolaires, les militants de la cause LGBT, et on peut en citer plein comme ça. Ces différentes appellations mettent en avant l'appartenance à une classe de difficultés psychiques, plutôt qu'à une communauté. Mais on peut voir que rapidement, une classe, un groupe, peut revendiquer de former une communauté. Et si ces patients ont l'impression que nous ne sommes pas spécialisés dans le domaine, ou bien si nous échouons à ouvrir un tant soit peu le champ de leurs demandes, ils nous larguent pour poursuivre leur quête. Alors j'ai deux exemples, de ce genre de choses, notamment autour des abus sexuels et des HP. Alors, j'ai reçu une fois une jeune femme d'origine américaine qui s'était installée en Belgique, qui avait déjà fait le tour de la moitié, si pas les trois quarts, des psys de la ville de Liège, et qui avait pris rendez-vous chez moi, et qui arrive en déposant un gros dossier sur la petite table à côté d'elle, et dont les premières paroles sont « Je suis une enfant de l'abus sexuel et je devrais être soignée toute ma vie. » Donc, ça ne peut pas changer. « Je devrais être soignée toute ma vie. Est-ce que vous êtes spécialisée dans ce domaine ?» Puis, très vite, elle a considéré à la fois que je n'étais pas assez spécialisée dans le domaine et que mon English était tout bête. Donc, je pense qu'elle est achetée par ailleurs. Mais c'est une demande quand même fréquente. Et un autre patient, là, un homme, qui avait consulté, avant de prendre rendez-vous, il avait consulté sur Internet pour voir si j'avais des publications sur le sujet. Il était tombé sur une publication, mais je pense qu'il avait mal interprété le titre de la publication, donc il a quand même continué, mais il a été bien désabusé après quand il a découvert par lui-même que ce n'était pas le cas. Donc il y a vraiment une tendance comme ça à vouloir, de même pour les HP et au potentiel, les grands adolescents, enfin des grands adolescents, de très jeunes adultes, qui mettent sur le compte de leur haut potentiel supposé, réel ou supposé, le fait qu'ils ne s'en sortent pas dans la vie, et qui forment des... Alors là, j'ai été très, très édifiée de découvrir ça, qui forment des clubs de HP entre eux, et quand ils se réunissent, ils se moquent avec un certain mépris de ceux qui ne le sont pas. Là, une communauté qui se crée. Alors, bon, ce sont des exemples au passage, mais sont-ils les tambours contemporains du toujours plus de spécialisation, d'efficacité ? Sont-ils un symptôme de la segmentation du paysage psychique en communauté de troubles psychiques ? Communauté qui pourrait s'ignorer les unes les autres, hein, comme les HP se moquent des idiots. À l'image de ce que Sen analysait à propos de l'identité et de la violence, est-ce qu'il laisse deviner toute la négativité du désenchantement, de l'apathie, de la haine, de l'anomie, de la destruction de soi et des autres ? Est-ce une manière de masquer dans le climat social et politique actuel le malaise qui les habite, entre impuissance radicale et vertige de possible ? Je ne suis malheureusement ni sociologue, ni anthropologue, ni historienne ou philosophe, et donc les idées que j'avance à ce propos sont par conséquent lacunaires et fort insuffisantes. Mais néanmoins, nous ne pouvons nous contenter de penser ces sujets, ces questions, sans nous pencher sur l'apport de ces autres disciplines des sciences humaines, ce qui serait alors... une façon de résister à la tentation d'un repli communautaire sur notre discipline. Donc, après l'identité, mon deuxième objet d'attention sera la langue idéologique, manifeste ou latente. La tyrannie des concepts, qui nous semble inévitable, et certes il l'est, il nous paraît parfois nécessaire, mais ce présent nous conduit à supporter avec un certain fatalisme les conditions historiques dans lesquelles nous vivons, et donc aussi à supporter surtout un certain type de discours, sans les questionner ou tenter de les réfuter. C'est une forme de c'est ainsi que pouvons-nous y faire. Alors là, c'est un historien, François Hartog, que je fais appel, il a nommé ce phénomène-là de ne pas questionner... tenter de réfuter comme ça les discours qu'on entend, il a nommé ce phénomène le présentisme. Alors, selon son hypothèse à lui, le présentisme est le régime d'historicité, bien d'historicité, qui domine aujourd'hui, pas de temporalité. Hein. Il fait prévaloir le présent sur le passé, sur le futur, en quelque sorte un présent autosuffisant. Et du même coup, l'histoire devient une série d'événements qu'on réduit à de l'imprévu et auxquels il faut réagir le plus vite possible. Et donc ce présentisme concerne notre rapport à l'historicité, donc pas à la temporalité, et cela envisage comment une société traite son passé. Et disons rapidement, parce que je ne pourrais pas m'étendre là-dessus, mais que le présentisme essaye de nous convaincre, non pas de s'attacher au présent, mais de croire qu'il n'y a que du présent, que le passé est inaccessible, qu'il ne nous sert à rien, pas besoin de s'intéresser au passé, et que le futur, de toute façon, il est fermé. Alors, il semble aussi que les mécanismes d'uniformisation mondialisante, à la fois marchand et idéologique, conduisent à une érosion de certaines diversités culturelles et linguistiques. Il y a aussi le discours scientifique, qui présente souvent le caractère d'un discours idéologique, peu ouvert aux contradictions des affaires humaines. Et là, on va rencontrer Winnicott. Winnicott qui, en 1940, en faisait le constat, à la fois avec humour et gravité. Humour de Winnicott. Dans un texte qui s'intitule « La pensée et l'inconscient ». Alors ce texte est tiré d'un livre qui, je crois, s'appelle « Réflexion sur la société ». Et on va retrouver ici, dans ce petit texte, notre réflexion d'aujourd'hui, à savoir la pensée, l'inconscient, les mots. Alors ce texte est très court et je vais vous le citer presque in extenso parce que ce qu'il dit est tout sauf anodin. Alors je le cite. Donc en 1940, le Parti libéral s'associe dans mon esprit avec la réflexion intellectuelle et l'effort pour résoudre les choses par la pensée. C'est d'ailleurs certainement pour cette raison qu'il fait souvent appel à ceux dont le travail exige une familiarité avec la science pure. Les scientifiques ont, par nature, envie de faire passer dans la politique quelque chose de leur discipline. Cependant, dans les affaires humaines, la pensée n'est que piège et illusion si l'inconscient n'est pas pris en compte. J'emploie le mot dans ses deux sens. Inconscient signifiant d'une part profond et difficile d'accès, et d'autre part refoulé ou activement rendu inaccessible parce que l'accepter comme faisant partie de soi serait trop douloureux. Des tas de gens sont gouvernés à certains moments critiques par leurs sentiments inconscients, et ce un bien ou un mal.
Maman, vous allez bien.
Confisqué.
Ah.
Oui,
c'est bon. Attaque informatique.
Mais à mon avis, c'est
dans le couloir.
Le volume du champ.
Je suis pas
dans la salle.
Connecté là-dessus. Ouais.
Oui. Pas toi, Laurent. Que... Non, t'es là.
Je prends une note.
Là, je continue donc. Oui, inconscient signifiant d'une part profond et difficile d'accès, et d'autre part refoulé ou activement rendu inaccessible, parce que l'accepter comme faisant partie de soi serait trop douloureux. Donc, des tas de gens sont-ils à certains moments gouvernés par leurs sentiments inconscients, sont gouvernés, est-ce un bien ou un mal? En tout cas, c'est un fait qui doit être pris en considération par les politiciens rationalistes si l'on veut éviter des chocs des affaires.
Ah oui, en plus, j'avais expliqué que le son n'était pas avec tout le monde.
Ça allait mieux, ça recommence.
On a les deux micros ici, oui. Ils ont activé un troisième micro quelque part, il y a un réseau Wi-Fi qui capte un écran Wi-Fi ou assimilé.
Je ne sais pas si c'est nous, c'est quoi qu'on entend maintenant. C'est brouhaha ici ou c'est brouhaha dans les baffes?
Non, ils ont sans doute activé un autre micro.
Celui-là fonctionne par Wi-Fi aussi.
Oui. Il y a un capteur là, tu vois, le truc avec les deux petites antennes.
Il y a le deuxième.
Ça ne change rien. Il faut attendre qu'il ferme l'autre. Je crois que Franz est allé voir.
Donc, on court certains risques à lâcher la bride aux gens qui pensent et planifient nos vies sans avoir une compréhension réelle des sentiments inconscients. Quand il s'agit de la planification de nos vies, Dieu nous garde des penseurs, dit-il. Premièrement, parce qu'ils croient rarement en l'existence de l'inconscient, et deuxièmement, même s'ils y croyaient, la compréhension de la nature humaine n'est pas encore suffisante pour qu'on laisse la réflexion remplacer entièrement les sentiments. Le problème est que les penseurs font toujours des plans qui ont l'air formidables. Toute fissure qui apparaît est colmatée par un peu plus de réflexion, plus brillante encore, mais en fin de compte, le chef-d'œuvre de construction rationnelle s'effondre à cause d'un petit détail comme l'avidité, dont on n'avait pas tenu compte. Au total, on a une nouvelle victoire de l'irrationnel, avec pour conséquence une méfiance plus grande encore vis-à-vis de la logique. À mon sens, dit-il, l'économie telle qu'elle s'est développée et nous a été exposée ces 20 dernières années en Angleterre est l'exemple même de ces choses attristantes. Pour ce qui est de penser clairement dans ce domaine de l'économie une telle complexité, les économistes sont imbattables et penser était nécessaire. Mais pour quelqu'un qui, par son travail, se trouve constamment en contact avec l'inconscient, l'économie apparaît comme une science de l'avidité dont toute mention d'avidité serait bannie. J'écris « avidité » avec une majuscule parce que je parle d'autre chose que de la simple gourmandise dont vous punissez les enfants avec des claques. Je parle de l'avidité, de la pulsion d'amour primitive, la chose que nous craignons tous d'avouer, mais qui est fondamentale dans notre nature et dont nous ne pouvons nous passer sans renoncer à la santé physique et mentale. Une économie saine devrait, selon moi, reconnaître l'existence et la valeur comme le danger de l'avidité collective et personnelle et tenter de l'exploiter. Dans une économie malsaine, au contraire, l'avidité ne se manifeste que chez certains individus ou bandes d'individus malades. On dit alors que ces individus doivent être exterminés ou enfermés. Et l'on bâtit tout sur ce principe. Ce principe étant faux, une bonne partie de l'économie intelligente n'est qu'intelligente. Autrement dit, c'est très amusant à lire, mais dangereux de s'en servir pour planifier. Fin de citation. Donc, les questions des rapports entre avidité et économie malsaine, c'est évidemment très actuel. La pensée politique, en méconnaissant ce qui lui donne lieu défensivement, en méconnaissant une sorte de dialectique entre son mode de saisie inconscient, à savoir l'avidité, et l'objet de sa peur, le chaos, verrait alors sans surprise son action échouer sur de petits détails, et c'est finalement la pensée tout court qui échouerait sur l'inconscient. La pensée, l'inconscient et les mots qui dérangent. Encore Winnicott, qui dans une lettre à Mélanie Klein dit à propos d'un de ses collègues, « Celui-ci semble croire que c'est lui qui fait pousser une jonquille, qui fait sortir la jonquille du bulbe, au lieu de sentir qu'il permet au bulbe de se transformer en jonquille avec une nourriture convenable. » Ici, Winnicott met le doigt sur l'écart qui existe entre des valeurs éventuelles d'un même mot, les différents sens d'une expression, et il souligne l'infatuation toute puissante qui guette l'analyste. Alors, comme je l'ai dans l'introduction, l'importance du mot pour la vie de l'esprit est indissociablement individuelle et collective, et Winnicott le souligne lui-même dans ce petit texte. Alors, comment le psychique se saisit-il des mots? Et comment se saisit-il du psychique? La langue, ses mots, sont ce qui est donné par l'espèce humaine à chaque individu. C'est ce qui transmet son capital, peut-il oublier, les traces, les transformations dont dispose chaque moi, chaque individu parlant, mais qui est aussi parlé, puisqu'on a parlé de lui avant sa naissance. Et donc, ce qui fait qu'il n'est pas exclusivement réduit aux limites de sa constitution congénitale, ni à son histoire exclusivement personnelle. Et donc, on voit à travers cette problématique de la langue quelle est la voie d'action aliénante ou émancipatrice par laquelle l'ensemble, le collectif, agit sur les moyens individuels. Alors, cette prise de possession des moi individuels par le discours collectif a été analysée de manière très fouillée et minutieuse par Victor Klemperer, qui a vécu jusqu'en 1960, qui était linguiste et écrivain, et qui avait été le témoin de la montée du nazisme. Quand l'histoire, avec un H majuscule, faisait des travaux pratiques, forcenés et grandeur nature sur le destin des mots. Et donc, j'y reviendrai un peu après, mais c'est très important ce qu'il a écrit. C'est un livre qui s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich. Et il démontre la corruption du langage et du psychisme par la pensée idéologique. Je vais d'abord, avant de revenir à Victor Klemperer, je vais voir un peu du côté de la clinique contemporaine. Est-ce qu'elle nous offre des exemples d'une telle corruption de la langue et par la langue? Oui, si on veut bien y prêter l'oreille. Certains patients ont un rapport particulier au langage. Tout se passe comme si dire ne pouvait pas être un mode et un objet d'échange véhiculant une polysémie. Ces sujets ont une prédilection particulière pour le discours idéologique, où les mots sont démonétisés et portent des majuscules. Ils tiennent le langage des institutions auxquelles ils s'accrochent et dans lesquelles ils cherchent identification et reconnaissance. On peut en trouver dans le milieu. Si ce n'est le discours idéologique, ce peut être toute autre langue de bois dont celle de la psychanalyse. Certains de ces patients qu'il m'a été donné de connaître gravitaient d'ailleurs dans une orbite périphérique à la psychanalyse. Alors, que devient l'action de l'analyste quand il est soumis à l'épreuve de ce que j'appelle la nuit des mots? De façon plus générale, que peut offrir le discours analytique à ces langues de bois si nous ne voulons pas, contre cette sorte de prédication idéologique, en marteler une ou autre, dont notre discipline n'est pas indemne? Car ce type de pensée, quand on y est confronté, contrecarre nos efforts pour nous extraire de ces discours qui sont devenus les instruments d'un processus totalisant. Et il semble que cela réponde chez l'analysant à un besoin vital de certitude, un désir ignoré d'auto-aliénation. Je vais en donner un exemple clinique. Mais avant l'exemple clinique, je vais aussi vous dire quelques mots de la pensée de la vulgarisation, parce que le pouvoir de séduction des idées simples est bien connu, de même qu'à la rapidité avec laquelle elle se propage, parfois en temps réel. Toutefois, l'effet produit par ce type d'expérience au sein d'une cure analytique alerte sur le risque que nous courons tous lorsque la langue porte témoignage des dommages que font subir à la pensée les idéologies ambiantes, idéologies qui envahissent le monde quotidien sans que l'on y prenne garde. Il est alors possible de constater in vivo comment une pensée réductrice et totalisante se répand dans le collectif en jouant de ses effets de fascination de manière larvée. Mon hypothèse est que la langue idéologique véhicule des représentations pictographiques de rejet où s'exprime la pulsion de mort. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que sont ces représentations pictographiques et la place qu'elles tiennent dans l'articulation entre individuel et collectif. Alors, j'essaie de traduire ainsi cette articulation entre intrapsychique et collectif. Un sujet cherche à répandre les produits de sa problématique intrapsychique dans l'espace social. Et il y réussit d'autant mieux que celui-ci en contient déjà des formes latentes ou avérées. Ces produits sont essentiellement des fantasmes archaïques, enchâssés dans un discours idéologique qui a la forme trompeuse de constructions idéiques élaborées, et dont la finalité libératrice, progressiste, n'est qu'un leurre. Le but de l'opération, c'est la mise à mort de la pensée. Cette même problématique fait ensuite retour sur l'individu. Le dehors revient vers le dedans et réalimente le fond fantasmatique archaïque. mais le tout accomplit un mouvement qui fait se succéder le centrifuge et le centripète. On pourrait dire le projectif et l'introjectif, mais ce que je désigne ici ne correspond pas entièrement à ces notions théoriques. Et donc, en définitive, on ne perçoit plus très bien lequel de l'individu ou du collectif est le miroir de l'autre. Et donc, il y a une parenté pour moi entre les démarches de la pensée idéologique et de la vulgarisation. Ce qui n'échappe pas à un examen attentif que la vulgarisation pourrait même être envisagée comme l'un des ferments de la pensée idéologique. Quand on voit l'arrogance, l'ignorance qui sous-tendent certaines entreprises de vulgarisation et le matraquage qu'elles infligent, et qui aboutissent en définitive à engourdir ou paralyser la réflexion. Alors ici, je pourrais dire quelques mots de quelque chose qui a beaucoup de succès depuis très longtemps, ce qu'on appelle le développement personnel. Toutes les choses qui... la psychanalyse a été au départ aussi quelque chose considéré comme du développement personnel, peut toujours l'être. Mais moi, je soulignerai ici tout ce qui concerne le business éditorial, médiatique, les stages, les conférences du développement personnel. Ou les vitrines des libraires ont été colonisées par des ouvrages de développement personnel plutôt que par des livres beaucoup plus compliqués de psychologie ou de psychanalyse. Alors ce n'est pas pour blâmer le mouvement, parce qu'on peut y trouver plein de choses, et donc blâmer ce mouvement n'est pas plus utile à sa compréhension que de s'en réjouir naïvement, mais c'est un instrument qui porte, même s'il s'en défend, une vision politique. Et ce phénomène ne peut échapper à un examen sans complaisance du monde dans lequel il veut inviter ses adeptes à vivre. Alors, ça témoigne aussi, je crois, de la perte de crédit d'autres formes d'action sur le monde. Et au premier chef, les voies classiques de l'action collective, qu'elles soient politiques, syndicales ou autres. Donc, il y a une sorte de repli sur le développement personnel. Donc, le réinvestissement de l'action sur soi montre peut-être la place grandissante de la croyance liée à un sentiment d'impuissance collective, selon lequel, si on veut changer les choses, c'est avec ses mains et son cerveau qu'il faut agir sur ce qui est à notre portée, donc sur nous, et de préférence en dehors du système. Donc là, c'est une explication qui est peut-être plutôt socio-psychologique et politique, mais il y a une autre explication intrapsychique autour de l'inconscient, avec les croyances, les aliénations, et toutes sortes d'autres phénomènes. Alors, je vais donc vous présenter une partie de ce cas clinique de langage idéologique et vulgarisateur. Je vais vous dire quelques mots d'une femme idéologue et des embarras que nous a causé son mode de fonctionnement. Pour se dégager d'une emprise autoritaire qui avait visé à l'annulation de son existence, cette femme revendiquait un refus radical de toute injustice, toute autorité, tout dogmatisme. Et cette visée n'était mise en œuvre qu'en recréant symétriquement un système de pensée analogue, omnipotent, totalisant, une sorte de pastiche de celui auquel elle tentait d'échapper vainement. Elle ne pouvait faire voler en éclats cette emprise qu'elle avait vécue comme mortifère, quand la Saint-Jean, en toute méconnaissance, en créant lui-même dans le huis clos d'une scène spéculaire tragique, sursaturée par le non-sens et la désolation de son existence. Alors c'est son discours qui était intéressant, qui ne laissait place à aucune autodérision, les mots étaient pris à la lettre. Je Je pouvais dire qu'elle avait une langue sinistrée, porteuse de blessures anciennes, du temps où langage et image du corps se sont édifiés ensemble. Le corps et le langage, c'est important. Cette femme usait d'un langage de type institutionnel et rejetait paradoxalement toute institution comme aliénante. C'est son propre discours idéologique qu'elle répandait et par lequel elle obtenait reconnaissance et identification. Elle se proposait d'ailleurs elle-même comme une institution. En multipliant les conférences dans des cercles psychosociologiques ou de développement personnel, justement, elle s'est imposée comme une militante exaltée de la cause des victimes. Elle s'est faite avec passion la courroie de transmission d'idées et de théories réduites à quelques maigres notions, censées rendre compte de toutes les difficultés à vivre, le choc, le stress post-traumatique et quelques autres. Des mots et expressions revenaient sans cesse dans son discours, comme des slogans vides de la nouvelle langue actuelle, par exemple « qualité totale »,« tout le monde gagnant », développement optimal des compétences. La diffusion et le succès de ce type de pensée dans l'espace social posent la question de l'aliénation qui concerne à la fois les relations intra-psychiques, les relations inter-individuelles et le champ social, et qui est propre à contenir des formes cliniques diverses d'ailleurs. Donc, les idéologues comme cela se proposent sans le savoir comme force aliénante et en cela s'aliènent eux-mêmes, tandis que les auditeurs complaisants leur offrent leur propre désir d'aliénation. De nos jours, il semble que ce désir d'auto-aliénation soit particulièrement opérant, puisque les langues de bois, les nouvelles langues circulent sans peine, parfois en temps réel, avec comme but commun aux uns et aux autres celui de la pulsion de mort. Alors, je vais vous donner un exemple de cette langue de bois qu'on pouvait lire il y a quelque temps sur un site internet intitulé Mégapsy, qui proposait la psychanalyse en ligne et même des tests de personnalité en ligne, mais surtout de la psychanalyse. Ce qui était, on peut toujours le trouver d'ailleurs, ce site internet, d'un certain docteur Hein, enfin Hein, ah oui, avec un tréma sur le i, mais le docteur Hein, qui disait sur ce site, je le cite, « Ce qu'il faut surtout retenir du web, c'est la dimension interactive très intéressante pour la psychanalyse qui permet d'avoir un rôle pivot sur de nouvelles formes de discours. Moins de démarches et plus d'efficacité, c'est une nouvelle forme de relation qui s'annonce, une relation tournée vers l'essentiel. Mégapsy propose une offre innovante, en adéquation avec vos obligations. Plus besoin de s'allonger sur un divan pour entamer une psychanalyse, il vous suffit d'un clavier et d'une souris. » Fin de citation. J'évoque la souris, mais nous allons rencontrer d'autres animaux. En effet, l'analysant idéologue usait lors de ses conférences d'animaux symboliques qui figuraient les modes possibles de relations humaines. La loi du plus fort, le vaincu, l'équilibre entre ces deux tendances. Et donc, la loi du plus fort, c'était le requin. Et la notion de destructivité humaine était rabattue intégralement sur l'image du requin, principalement sa mâchoire avide et destructrice, sans aucun écart susceptible de ménager une épaisseur de sens. Alors, si la vulgarisation joue sur des métaphores, voire en abuse, c'est la fonction métaphorique elle-même qui est touchée et parfois carrément perdue. La simplicité de ce qui s'apparente encore à des métaphores et ne l'est déjà plus est exemplaire. Tout au plus, s'agit-il d'équations symboliques. Les objets substitués sont vécus comme étant les objets originaux, sans possibilité de faire jouer une similitude qui respecterait les différences. Les symboles ainsi formés sont en fait que des symboles primaires ou des images de choses. Un mot se substitue à une notion complexe et la simplification opérée s'apparente à l'anesthésie de la pensée. Le conditionnement n'est pas très loin. La transmission dont fait l'objet la vulgarisation contribue alors à une destruction culturelle. Le langage de la vulgarisation peut devenir alors un appareil d'action sur l'autre. On peut ressentir comment il fait vivre à cet autre quelque chose qui ne se trouve nulle part dans le langage. Ce qui est transmis n'est plus une métaphore à travers laquelle on pourrait pister une représentation inconsciente, mais une action, une influence sur l'autre. La fonction rhétorique du langage, son action sur l'autre, prend dès lors le pas sur la fonction métaphorique et peut aller jusqu'à dissoudre celle-ci. Et donc c'est ce qu'analyse Victor Klemperer dans « La langue du Troisième Reich ». Et il fait cette remarque, je le cite, « Ce qui est populaire, c'est le concret. Plus un discours s'adresse au sens, moins il s'adresse à l'intellect, plus il est populaire. Il franchit la frontière qui sépare la popularité de la démagogie de la séduction d'un peuple, dès lors qu'il passe délibérément du soulagement de l'intellect à sa mise hors circuit et à son engourdissement. » Fin de citation. Alors, dans ce qui précède, j'ai parlé de concret, de discours s'adressant au sens, de symboles primaires, de fonctions rhétoriques du langage. Et pour moi, ces termes convergent tous vers le rapport, les rapports plutôt, que le langage entretient avec les différents modes de représentation, notamment l'originaire. Alors l'originaire, c'est une notion un peu compliquée, mais que je vais essayer de vous formuler assez clairement, qui était théorisée par Pierre Aulagnier. C'est surtout à propos de la psychose qu'elle a théorisée, mais ça appartient à la vie psychique de tout individu. Et l'originaire tente de rendre compte au niveau de la fonction de représentation, donc c'est uniquement au niveau de la fonction de représentation, de la symbolisation, disons, et seulement de celle-ci, des tout premiers formés, tout premier objet formé par le fondement psychique. Alors, au départ de la vie psychique, la dualité fondamentale n'est pas celle du sujet et de l'objet, mais celle de la psyché et du monde. Le monde n'est pas seulement avalé selon le mode de l'absorption orale, mais il s'inscrit dans un phénomène qu'il appelle de spécularisation originaire. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc l'éveil de la psyché se produit comme ça dans une sorte de réflexion folle au sein de laquelle le bébé convertit toute rencontre sensible, toute perception en découverte de lui-même, en auto-engendrement. Donc, dans cette rencontre avec le monde, la puissance de percevoir s'étaye sur celle d'engendrer, de donner naissance. Et quel est le premier objet psychique formé? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le pictogramme objet zone complémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la zone sensorielle et l'objet source de l'excitation. Par exemple, la bouche produit le sein en l'avalant et elle s'engendre elle-même de ce fait. Elle produit, la bouche produit le sein produit la bouche et c'est une sorte de réflexion. Et à ce moment-là, donc à ce niveau-là, l'emprunt fait par la psyché à l'expérience sensorielle, corporelle, est primordial et inaugural. Il ouvre sur une scène en mouvement. Le monde psychique s'empare du monde, lui-même, dans des mouvements d'arrachement, de pénétration, d'ouverture, de fermeture, d'attraction, de rejet. C'est ainsi donc, que Pierre Aulagnier rencontre des premiers produits psychiques préalables à la construction du primaire et du secondaire, que vous connaissez mieux, primaire avec les fantasmes, le secondaire avec les idées, pour faire ça. Et donc l'originaire et ses pictogrammes, ils ne tiennent pas leur spécificité de leur antériorité par rapport au primaire et au secondaire, bien qu'ils arrivent en premier, mais ils tiennent leur spécificité du principe de causalité de ce système qui postule à ce niveau-là que tout existant est auto-engendré par l'activité du système qu'il représente. mais l'originaire n'existe seul sur la scène psychique que pendant un moment très bref, très très bref. Très vite apparaissent le primaire ou ses prémices, puis le secondaire. Et durant toute la vie, ces trois systèmes de représentation, donc l'originaire, le primaire ou le secondaire, vont coexister. Ainsi, au moment où je vous parle, nous sommes tous habités par ces trois modes représentatifs, sans le savoir évidemment, sans en avoir conscience. Les idées, les réflexions que je vous transmets se représentent dans votre esprit par une idée, mais aussi sans en avoir conscience, par des fantasmes et par des représentations pictographiques. Il y a deux ordres de représentations pictographiques, des représentations de jonction, d'union, ou des représentations de rejet. Alors la représentation de jonction, c'est prendre en soi. C'est le rejet, mais c'est rejeter en soi. Et en termes psychanalytiques, la première, prendre en soi, et la seconde, rejeter en soi, peuvent d'emblée se traduire par un autre binôme, l'investissement ou le désinvestissement. Eros ou pulsion de vie, pulsion de mort. Donc là, pendant que nous parlons, si c'est une bonne rencontre, une rencontre de jonction, vous prenez en vous. Et si ça vous semble mauvais, vous rejetez hors de vous. Et Pierre Oyani avait eu cette formulation que je trouve très, très belle. Elle disait, au moment où la bouche rencontre le sein, elle rencontre et avale une première gorgée du monde. Affect, sens et culture sont coprésents et responsables du goût de ces premières molécules de lait que l'infant prend en soi. Et c'est une très belle formulation qui ouvre plein de perspectives. Alors, mon hypothèse à moi, c'est que l'originaire constitue le fond représentatif, qui est un véritable ancrage corporel, auquel le travail de la métaphore va s'alimenter. Parce qu'au départ, le rapport du corps à la psyché se réduit en grande partie à la création de significations du langage envisagées comme des métaphores de l'organisme. Il y a plein d'expressions qu'on peut retrouver. Alors, on dit porter le monde sur son dos aussi quand on ne va pas bien, cracher dans sa soupe. Plein d'autres. Voilà. Alors, une condition s'impose pour que ces métaphores sortant de l'organisme soient habitées, c'est que ces significations ne soient pas réductibles à l'énonciation d'un dit. Il faut qu'elle soit porteuse d'un récit, d'un mythe, de fantasme où il est question de l'origine du corps en tant que lieu de rencontre avec le monde. Alors, je pourrais vous donner tout à l'heure un exemple, mais je n'ai plus tellement de temps. Alors, il est nécessaire que ces fantasmes soient porteurs d'un éprouvé minimal de plaisir. Et si une rencontre catastrophique se produit, qui éveille, comme on l'a vu, je n'ai pas donné les détails, mais chez la patiente dont j'ai parlé, si une rencontre catastrophique se produit, qui éveille ou réveille un pictogramme de rejet, sans que le primaire et le secondaire réussissent à métaboliser cette irruption et à la traiter comme un corps étranger, pour rétablir le fonctionnement psychique, la psyché se trouve face à la tâche impossible de métaboliser l'expérience, et c'est ce qui se produit, par exemple, dans une décompensation psychotique. Voilà, donc... je vous ai expliqué brièvement tout ça pour vous dire que le pilonnage systématique exercé par certaines démarches de vulgarisation par la pensée idéologique me semble viser l'engourdissement, l'annihilation de la pensée de l'autre. Quelque chose disparaît définitivement dans l'opération sans aucune conscience de ce qui est perdu, c'est-à-dire le contenant vivant de la langue qui exprime une pensée et son altérité. Et donc la langue idéologique véhicule des représentations pictographiques de rejet qui gravitent dans l'air de la pulsion de mort, qui mutile le psychisme parce que rejeter hors soi, c'est synonyme de désinvestissement, de conflit mortifère, la zone psychique pour penser les choses est mutilée aussi. Par exemple, la bouche se détruit en même temps qu'elle expulse le sein. Et il ne reste rien au niveau de certaines zones psychiques pour penser ce qui a été subi. Et donc, chaque fois que l'idée du monde risque de chanceler de manière imprévue et non maîtrisable, le fonctionnement psychique est en péril de ne plus pouvoir s'appuyer sur le primaire et le secondaire et de ne plus rencontrer qu'une image de ce monde proche de l'originaire, rejetant. Il est alors contraint à une tentative désespérée de rendre sensé des éprouvés qui émanent d'une représentation qui n'est plus que le reflet d'un corps s'automutilant, s'auto-rejetant, s'auto-évacuant. Et on peut identifier les conséquences du côté d'une déperdition de sens ou d'une perte d'autonomie de la pensée. Alors, bon, j'ai encore deux exemples à donner de ce que c'était un pictogramme de rejet. Un très rapide que vous pouvez voir dans le film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, où on voit Hinkle qui hurle le discours en allemand, qui vomit son discours devant un micro, et le micro se courbe pour échapper à sa bouche dans le film. Alors, ceci n'est pas un pictogramme, c'est le génie du créateur qui a figuré en image ce rejet entre une zone et un objet complémentaire, la bouche qui hurle et l'oreille qui entend, figuré par le micro. Voilà. Et le deuxième exemple, c'était donné par Klemperer, là, qui montre très bien que, par exemple, le signe SS dans la langue nazie, SS anguleux, pas le S avec des courbes, c'était un signe qui existait d'abord sur les boîtes de transformateurs avec cet avertissement attention haute tension, et puis qui est devenu qui était l'image stylisée de l'éclair et qui est devenu un signe important de la langue idéologique, au point qu'il y avait même une touche de machine à écrire avec le signe SS anguleux, hein. Donc c'était une incarnation directe, une expression picturale de l'éclair, image, caractère abstrait, écriture pictographique, retour à l'aspect sensible, désir et repos. Voilà. Donc avec toutes les conséquences psychiques que cette utilisation d'un mode représentatif implique, à savoir la possible mise au silence des autres modes représentatifs de la pensée. Alors, je termine en disant que je partage la position de Klemperer qui affirme son attachement au point d'interrogation. Il dit que le point d'interrogation, c'est le plus important de tous les signes de ponctuation. C'est une position qui est aux antipodes de l'entêtement et de l'assurance des nazis. Il dit qu'on a prétendu à satiété avant Hitler, puis pendant l'époque hitlérienne, que tout progrès était dû aux entêtés, et que tous les blocages étaient dus uniquement aux partisans du point d'interrogation. Il dit ce n'est pas tout à fait sûr, mais une chose est tout à fait sûre, c'est que le sang est toujours sur les mains des entêtés. Et donc je conclue en avançant que le point d'interrogation reste pour moi une forme de résistance. Ouais.